Alors, mesdames et messieurs, je crois que on a ajouté 5 minutes académiques pour permettre à ceux qui ont des difficultés dimanche matin de se présenter si tôt dans les synagogues, de venir. Mais il est peut-être temps qu'on commence. Alors, mesdames et messieurs, le titre de mon propos, c'est le paradoxe de la prière. Et ce que je comprends sous ce titre, c'est que quand on prie, on exerce une certaine activité qui, quand on pense vraiment à ce qu'on est en train de faire, présente certaines difficultés philosophiques, à tel point qu'on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on prie? Et de préférence, j'espère, si on pense à cette question, qu'on peut aussi se poser la question, mais comment est-ce que on prie mieux, plus correctement? Comment est-ce que je puise davantage de la prière? Et en fait, il faut poser la question aussi, pourquoi, quand je dis pourquoi est-ce que je prie, c'est d'un côté à quoi ça sert, et d'un autre côté, qu'est-ce que moi je recherche dans ma prière? Alors, essayons un peu d'encadrer ça d'une façon philosophique. Nous acceptons, étant croyants en Dieu, que Dieu est bon. Il veut donc, nous donner, nous offrir, nous soutenir, bref, faire ce qui est bien pour nous, ce qu'on aimerait bien. Il est omnipotent, donc en fin de compte, il n'y a rien qui l'en empêche de réaliser tout ce qu'il veut réaliser. Il est omniscient, il connaît exactement nos besoins. Et on dit, quel Elyon, le plus haut, Dieu n'a pas besoin de demander la permission à quiconque. Dieu peut donc combiner toutes ses qualités, toutes ses facultés qu'on vient de mentionner et agir d'une façon indépendante. En ce cas-là, la question, le paradoxe, le premier paradoxe de la prière, c'est si... En effet, nous croyons que Dieu, en effet, est omniscient, omnipotent et bon. Pourquoi prier? Parce que d'un côté, une autre façon d'expliquer ça, c'est que, bon, si Dieu connaît nos besoins, nos désirs, et a envie de nous faire plaisir, et a le pouvoir de le faire, alors pourquoi prier? Je reste dans mon coin. Dieu connaît déjà la prière. Hein? Il la connaît déjà. Et pas besoin de le prononcer. Si on veut aller un peu plus loin, et on veut ajouter encore une faculté divine, que Dieu est juste, alors on peut élargir cette question philosophique et dire, mais pourquoi prier? Parce que si je le mérite, ben Dieu me bénira. Et si je ne le mérite pas, à quoi ça sert de prier? En fin de compte, je ne le mérite pas. Donc, nous avons ici ce que j'appelle le premier paradoxe de la prière. Il y a un autre paradoxe de la prière qui se déroule sur un plan philosophique tout à fait différent, et c'est que comment peut-on imaginer que Dieu, l'infini, puisse être adressé par nous, être fini, tout petit qu'on est? C'est une question intéressante aussi, mais moi j'ai envie de me concentrer quand même sur cette première question qui nous permet quand même déjà d'explorer beaucoup d'aspects de la prière. Alors, peut-être avant qu'on continue, j'aimerais demander votre avis à vous. Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? Oui. On essaye d'établir une relation, très, très intéressant, d'accord. Il y a d'autres suggestions? On prie pour soi, c'est égoïste, d'accord? Continuez, c'est bien. La question que je... Ah, oui. Alors, quand j'ai présenté le paradoxe de la prière, en fin de compte, il n'était pas nécessaire de préciser, parce qu'il s'agit de toute activité de prière. Maintenant, quand je pose la question, je vous demande, qu'est-ce qu'on fait quand on prie? C'est vrai qu'on peut commencer à identifier différents genres de prières. Je suis d'accord. Très bien, vous avez raison. Alors, on va en ce cas-là, on va essayer de se concentrer sur l'Amida, mais on ne va pas oublier que vous avez identifié d'autres genres, et je peux poser la question autrement. C'est quoi l'essence de la prière? C'est quoi la prière la plus élevée? Le mode de prière qui capture vraiment la notion de ce qu'on veut achever, réussir, ce qu'on veut obtenir quand on est en train de prier. Et ça permet donc de comparer tous ces genres de prières, et un peu les combiner et dire ça c'est l'essence. Mais on peut prendre pour essayer d'aller directement vers le but. On peut dire maintenant on va se concentrer sur l'Amida. Oui.
Est-ce que prier veut dire uniquement demander?
C'est une très bonne question. Hein, moi je pose la même question. C'est bien. Vous avez encore des suggestions? Oui. D'accord. Peut-être aussi, bonne question. Bon, alors, peut-être qu'on va prendre vos idées, on va essayer. Vous donnez une réponse en fait, une des réponses à la question. On va essayer d'analyser ça, très bien. Ça aussi, ouais, ça se discute, c'est vrai. En effet. Alors, non, mais la notion de prière quand même, il a raison que Rambam... Oui, mais j'ai pris l'Amida comme essence de la prière, et donc en ce cas-là, c'est pas tout à fait faux non plus ce qu'il dit. Moi, je dirais, c'est intéressant, Rambam, il donne en fait votre réponse, je vous dis un peu, mais d'abord, je veux adresser ça directement. Même s'il s'agit d'une mitzvah de la Torah, on veut quand même essayer de comprendre certains aspects philosophiques afin de mieux comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. On arrivera mieux au but si on a une carte, on sait où on va. Alors, en effet, il y a un point de vue que Rambam énonce dans le guide des égarés. Si vous voulez rechercher ça, c'est dans le troisième livre, 44e chapitre. On dit, la prière, la récitation du Shema, le Birkat Hamazon, toutes les brachot, Birkat Kohanim, les Tfilin, la Mezouza, Tzitzit, la mitzvah de faire écrire un Sefer Torah et lire régulièrement, le but de toutes ces mitzvot, c'est de créer un lien entre nous et Dieu. de cultiver le lien. Dans ce cas-là, le but de la prière, ce n'est pas de demander ce dont j'ai besoin. Et en effet, nous avons une... siècles plus tard, nous avons une machloquette très intéressante sur la question que constitue la kavana. Quand on dit qu'on est censé prier avec de la kavana, on est censé de prier avec une intention, c'est quoi cette intention? Et on a un peu le monde à l'envers entre ce qu'on s'attend des chassidim et ce qu'on s'attend des litvaks. Basé sur l'enseignement du Baal Shem Tov, les chassidim disent que, et ce qu'on retrouve aussi chez Maïmonide un peu, c'est la kavana, c'est comprendre ce qu'on est en train de dire. Avoir l'intention pour ce qu'on est en train de dire. On dit Baruch Ata Hashem, ça veut dire quoi Baruch, ça veut dire quoi Ata. Elokeinu Melech HaOlam, etc. On veut comprendre que veut dire les mots. Pirush HaMilim. Rabbi Chaim Volozhin, qui était en fait, alors pas du tout chassid, talmid du Gaon de Vilna, fondateur de la première yeshiva du modèle répandu aujourd'hui, on peut dire le fondateur du système des yeshivot modernes, où des jeunes allaient carrément donc, dans une institution où s'occupaient de tous leurs besoins afin qu'ils puissent vraiment se concentrer sur l'étude. Rabbi Chaim Volozhin dit, non, Kavana, c'est de comprendre qu'on se trouve devant Dieu, devant le roi suprême, et qu'on est en train de l'adresser. Et le but, ce n'est pas de prier pour quelque chose en particulier et d'obtenir ça. Ça, c'est une prière, mais c'est une prière... disons d'une qualité inférieure. La prière de qualité supérieure, c'est une prière non, qui n'est pas différenciée, où je prie pour la shefa, pour la bonté divine, et Dieu en fait ce qu'il veut. Je m'intéresse au monde entier, simplement à cultiver ce lien avec Dieu, parce que c'est grâce à ce lien entre l'humanité et Dieu que l'humanité va trouver la bénédiction. Donc, on retrouve à nouveau, sous une autre forme, cette question, c'est quoi la prière? Est-ce que c'est prier pour quelque chose en particulier? Est-ce que je veux obtenir quelque chose? Ou est-ce que je veux cultiver un lien? Et bon, Rabbi Chaim Volozhin, il ajoute l'aspect kabbaliste. Si je cultive le lien, c'est à travers ce lien-là que toute l'humanité va trouver sa bénédiction. Mais en fin de compte, ce que Rabbi Chaim Volozhin dit, c'est que la prière, c'est cultiver notre lien avec Dieu. Puis nous avons une réponse philologique à base des mots, de l'analyse des mots, du langage. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il analyse le verbe qu'on utilise pour prier, le hitpalel, et il dit que c'est une forme grammatique qu'on appelle hitpael. C'est réflexif. C'est pas je prie à Dieu en hébreu, mais je me fais prier. Ou je me prie. Je sais pas. Ça ne se traduit pas bien en français. Mais pour Avirch, cette forme grammatique est très importante parce que ça souligne une réponse ou un chemin vers la réponse au paradoxe de la prière. C'est-à-dire, je suis en train, quand je prie, de m'influencer moi-même. Parce qu'un autre paradoxe de la prière, c'est comment est-ce possible que nous, êtres finis, on change l'opinion de Dieu, c'est-à-dire on change Dieu. On ne peut pas le changer, il est immutable. Donc il dit non, ce n'est pas Dieu qui va changer, c'est moi qui vais changer. Je prie, avant que j'ai commencé à prier, je ne méritais pas X, Y ou Z. Du moment où je prie, je m'engage dans ce processus, je change. Et donc peut-être que moi, d'avant la prière, je ne méritais pas toute une ribambelle de choses, mais le moi d'après la prière mérite un peu plus. La réponse de Rav Hirsch. Dans tout ça, on n'est pas allé très très loin de la définition de prière comme bakasha. On mentionne constamment l'idée qu'on prie pour quelque chose où on ne peut pas résoudre le paradoxe. On dit je ne prie pas pour quelque chose, je prie pour développer un lien. Donc je ne prie pour rien en fait. Je ne prie rien en particulier. Ça ne veut pas dire que la prière est futile, elle ne l'est pas. Elle est importante justement pour développer ce lien. C'est un peu comme un enfant, quand il a besoin de quelque chose, il en parle avec ses parents. Est-ce que ses parents peuvent toujours réaliser les besoins de l'enfant? Non, mais l'enfant parle quand même avec ses parents. Est-ce que Dieu va répondre à tous nos besoins, à tous nos désirs? Non, parfois d'ailleurs ce n'est pas bien pour nous. On dit que Dieu est bon, et si ce n'est pas bien pour nous qu'on ait quelque chose, alors peut-être qu'il est mieux que Dieu dise non. Il y a une histoire très 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 tragique. Vous vous rappelez, en 1994, il y a eu un soldat israélien qui a été kidnappé par le Hamas, Nachshon Waxman. Vous vous rappelez encore? Oui, non? Tout Israël a prié pendant des semaines. L'armée a réussi à apprendre où il était emprisonné, a pu trouver, reconstruire les plans du bâtiment où il était. Et ils ont entrepris un raid très très courageux pour essayer de le sauver. Et malheureusement, il y avait un mur qui manquait dans les plans. Et donc quand ils sont rentrés, le mur les a empêchés d'avancer suffisamment vite. Et les quelques secondes ou la minute que ça a pris pour avancer a suffi pour qu'ils tuent, pour que les terroristes tuent Nachshon Waxman. Un journaliste qui manquait beaucoup de tact est venu à la Shiva parler avec la famille de ce soldat et a demandé, il a interviewé la mère, Madame Waxman, et avec son manque de tact, il lui a dit, écoutez-moi, tant de centaines de milliers de gens ont prié pour votre fils. Et quand même, il n'a pas été sauvé. Est-ce que Dieu n'entend, peut-être que Dieu n'entend pas vos prières? Et certes, la question était sans tact, mais la mère, elle, n'a pas perdu. Elle n'a pas perdu la boussole. Et immédiatement, elle lui a répondu, non, Dieu a entendu la prière. Elle dit, mais votre fils n'a pas été sauvé. Elle dit, oui, il a répondu non. C'est pas parce qu'on ne reçoit pas la réponse de oui que notre prière n'a pas été entendue. Bon, Dieu merci, en général, il s'agit de bakashot beaucoup plus simples et beaucoup moins graves. Mais par principe, il faut quand même noter que le modèle de prière comme bakasha n'exige pas que chaque prière soit répondue d'un oui, que chaque prière soit réalisée. N'empêche, on est resté dans ce modèle où on a dit d'un côté la bakasha, mes besoins personnels, la prière est égoïste. D'un autre côté, mais pourquoi ça n'a aucun sens philosophique? Non, vraiment, c'est juste pour développer le lien. Peut-être que je ne devrais pas ajouter le mot juste, parce que c'est quelque chose quand même de très important et de très profond. Mais peut-être qu'on peut trouver dans nos sources d'autres façons de comprendre la prière qui vont permettre d'un côté à répondre d'une façon peut-être plus subtile au paradoxe de la prière et aussi à nous donner un modèle avec lequel on peut travailler, on peut se permettre d'améliorer, d'approfondir notre prière. La Gemara en Brachot, Chaf Vav Amud Bet, 26b, cite deux opinions très connues. Une opinion, c'est Tefilot Avot Tiknum. D'où est-ce qu'on a les prières Shacharit, Mincha et Ma'ariv. Alors la Gemara, elle dit, c'est un modèle qu'on apprend de l'histoire des patriarches. Abraham, quand il allait vers Akedat Yitzhak, il s'est levé tôt le matin. Et on va apprendre à la base de ça, Vayashkem Avram Baboker, il est allé où? El Hamakom Asher Amad Sham. Alors, ça veut dire quoi? Il est allé El Hamakom Asher Amad Sham, il était debout. Qu'est-ce qu'on fait debout? Hein? Debout, on fait l'Amida, oui, on fait la prière. Bon, il a fait la prière. Yitzhak, quand Rivka est venue de chez elle, est arrivée en Israël, est arrivée à l'endroit de Yitzhak, elle voit quelqu'un qui Yitzhak est sorti la soir basadeh pour parler dans le champ. On va parler avec qui? Il est allé faire la prière. Et puis Yaakov, à son tour, on retrouve dans son histoire un verset, Vaifga bamakom vayal ensham ki va hashemesh. C'est quand il part, il quitte la maison de ses parents pour aller vers Haran, et il s'arrête à l'endroit où il va voir son rêve avec l'échelle, et il arrive là-bas qui va à Shemesh, car le soleil s'est couché, et donc quelle prière on fait une fois qu'il est nuit? Ma'ariv, Arvit, très clair. Puis il y a une autre opinion qui dit Tefilot keneged temidim tiknum, que la prière régulière a été instaurée par nos sages correspondant au service des offrandes à Avodat HaKorbanot dans le temple. Et particulièrement chaque jour, on offrait le matin un mouton quotidien, Tamid Shel Shachar. L'après-midi, à la fin de la journée des sacrifices, on offrait encore un mouton, Tamid Shel Ben Arbaim. Nous avons donc Shacharit et Arvit. Et puis il y avait la Ketor, il y avait, comment dirais-je, la, les parties des offrandes qu'on brûlait sur le Mizbeach, ben on pouvait le brûler toute la nuit, Ekter Halavim Bevarim, et donc ça correspond à Arvit. Donc, on peut dire, la Gemara est en train de se poser une question historique. Quand est-ce qu'on a instauré les prières? Alors nous, on sait, c'est très clair, que l'obligation de prier trois fois par jour, à propos au début deux fois par jour, vient de la période d'après le Khurban Beit HaMikdash. La Amida s'est cristallisée après la destruction du temple. Tant qu'on avait le temple, le centre cultuel, c'était le Beit HaMikdash, on apportait les korbanot, et la prière, alors on connaît certaines prières du temps du Beit HaMikdash, par exemple, les brachot, avant et après le Kriyat Shema, comme le Kriyat Shema c'est une mitzvah de Oraita, donc ce qui accompagne ce texte-là, c'est très ancien. On nous parle des Kohanim dans le Beit HaMikdash, quand ils devaient commencer très très tôt à effectuer le service des offrandes, qu'est-ce qu'ils faisaient comme prière? Qu'est-ce qu'ils devaient sauter? Si on commence très tôt, il fait encore noir. Est-ce qu'on peut faire toutes les brachot du Shema ou pas? Et donc on voit que ce sont des brachot très anciennes. Par contre, la Amida s'est cristallisée plus tard. Bon, la Gemara nous dit qu'en fait, la Amida a été d'abord formulée par Anshei Knesset HaGedola, puis elle a été encore une fois formulée de la même façon après la destruction du temple. Alors, qu'est-ce qui se passe au milieu entre Anshei Knesset HaGedola, le début du deuxième temple, et la période de Yavne, qui est donc après la destruction? Le Talmud Bavli dit que la Amida a été oubliée. Alors, on peut discuter les détails maintenant, je n'ai pas envie de me concentrer complètement dans la formulation exacte de l'Amida. Mais ce qui est très clair, c'est que si on dit que l'Amida a été oubliée, ça veut dire qu'on ne priait pas avec une Amida pendant la période du deuxième temple. Ou s'il y avait des gens qui priaient de cette façon, ils étaient peu. Et donc, Tefilot keneget midim tiknum, une fois qu'on ne pouvait plus apporter les offrandes quotidiennes, on a dû les remplacer. D'après le modèle du verset « Unshalma parim sfateinu » avec nos lèvres, nous allons compléter, remplacer les taureaux. Donc, les offrandes qu'on ne peut plus apporter, on les remplace par la prière. Et donc, après la destruction du temple, on va voir la prière quotidienne comme on la connaît. Et alors, on contraste ça avec Philot Avot Tiknum, que nos ancêtres, les patriarches, sont eux qui ont établi la prière pour dire, en fin de compte, quoi ? L'inverse. Non, la prière, c'est pas après la destruction du temple que ça a commencé. C'est très, très, très ancien. Comme Rabbeinu Yonah a dit, c'est vrai que dans le Beit HaMikdash, ce qu'on faisait, ce qui était très, très visible, c'était les corbanotes, mais le but du Beit HaMikdash, c'était qu'on vienne là-bas pour prier. Donc la prière est bien plus ancienne que la destruction du temple, ainsi dit l'opinion Tfilot Avot Tiknum. C'est une façon assez simple de voir la Gemara. Je retournerai vers cette Gemara et je vais essayer de la comprendre d'une façon approfondie. Mais j'ai envie d'analyser donc certains passages de cette Gemara, de cette fila dont la Gemara elle parle, l'Amida. Par exemple, on dit dans la première bracha, Dieu est gomel chassadim tovim, on l'a dit au début, Dieu est bon. Ve kone akol, c'est le créateur de tout. Ve zocher chasde avot, le lien, il se rappelle de ce qu'on fait, des actes de bonté qu'ont fait les patriarches. Et donc, il y a un lien historique entre le peuple d'Israël et Dieu. Umevigoel ivnevneem, il enverra un goel, un délivreur pour les descendants des patriarches. Et puis, on a quelques mots très intéressants. Le ma'am shemo ba'ava. Ahava, dans le Tanakh, ça veut dire en fait la loyauté. Donc il y a une loyauté réciproque entre le peuple d'Israël et Dieu. Mais c'est quoi ce le man shemo? Quelqu'un veut suggérer que veut dire le man shemo? Que peut dire le man shemo? Pour son nom. C'est quoi pour son nom? Alors je vous cite un verset révolutionnaire de la prophétie de Yéhézkel, Ézéchiel. Lachen emor levet Israël, dit donc à la maison d'Israël, Ko amar Hashem Elokim, ainsi dit le Seigneur éternel, Lo lemanchem ani oseh bet Israël, c'est pas pour vous que je le fais. On a posé la question avant, pourquoi prier, après tout, on ne mérite pas, n'est-ce pas? Donc je dis, si on mérite, on mérite, et si on mérite pas, à quoi ça sert de prier? Eh bien, Yéhézkel cite Dieu qui dit, Lo lema'anchem, c'est pas pour vous que je le fais, la maison d'Israël. Ki im leshem kochi, mais plutôt pour mon nom, mon saint nom, asher chilaltem bagoyim, que vous avez profané parmi les nations, asher batem sham, où vous êtes allés. Là, c'est très 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 intéressant. Ça veut dire, le prophète Yéhézkel annonce que le peuple d'Israël sera délivré, le peuple d'Israël sera aidé, le peuple d'Israël trouvera son salut, le peuple d'Israël retournera en Israël, sera libéré, mais pas parce qu'ils sont justes. Le peuple d'Israël, en ce moment-là, a fauté beaucoup. Le man shmi asher chilaltem bagoyim, vous avez profané mon nom parmi les peuples, asher batem shama, vous êtes arrivés. Mais je le fais, le man shemi. Pour comprendre ça, ça vaut le coup de se référer à deux passages dans la Torah. Nous avons, dans quelques semaines, on va lire la Sidra de Kitissa. Après la faute avec le veau d'or, Moshe fait la prière. Il prie pour le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, tu veux détruire ce peuple et tu veux que de moi tu créeras un nouveau peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les détruire. Pourquoi faire ça? La mayom ru mitzraim le mort. Pourquoi est-ce que l'Égypte dira bera hotziam la rokotam beharim ul chalotam be'al pnei adama? Jusqu'à pour le moment, les Égyptiens disent tiens, regardez comme Dieu est grand. Il les a sortis. Il a fait sortir son peuple d'Égypte. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple sera détruit. Ils vont dire non, il les a sortis pour les détruire. Au lieu de voir la grandeur de qui? Point d'interrogation. Au lieu de voir la grandeur de, j'ai dit point d'interrogation, on va voir. Ce qui va se passer, c'est que ils vont dire non, Dieu a simplement fait détruire ce peuple. C'est encore mieux expliqué après la faute avec les Meraglim. Après la faute avec les Meraglim, en Parashat Shelach, Moshe dit à Dieu, Vayomer Hashem, Moshe El Hashem, Veshamu Mitzrayim, les Égyptiens ils vont entendre, Ki Elita Bochachacha et Amazé Bikirbo, avec ta grande puissance, tu as fait sortir ce peuple-là du sein de l'Égypte. Veamru El Yoshev Haaretz Hazot, ils diront aux Cnaanéens, Shamu Ki Ata Hashem Bekerav Amazé. On a entendu que Dieu se trouve en plein milieu de ce peuple-là. Vous êtes vu œil à œil sur le mont Sinaï. Et ton nuage les recouvre. Et là où va Moudanan, et avec un pilier de nuages, tu vas devant eux. Donc on va parler de la grandeur de Dieu. Où va Moudesh, là et là, et avec un pilier de feu la nuit. Veimata et Amazé. Maintenant, ça c'est ce qui se passe jusqu'à maintenant. Veimata et Amazé, Kishechad. Tu vas faire mourir tout ce peuple d'un coup. Vamuagoyim, Ashrechamuachimachalimor. Les peuples qui vont entendre toi, ils vont dire Mi bilti yocholet Hashem lavi et Amazé laaretz asher nishbalehem. Dieu est incapable de faire arriver ce peuple dans la terre qu'il leur a promis. Veishratem bamidbar, et c'est pour ça qu'il les a abattus dans le désert. Donc, ve'ata et maintenant, yigdalna koach Hashem kasher dibarta lemor, on voit la grandeur de Dieu, pardonne-leur. Ce qu'on retrouve ici, sous trois formes, deux fois dans les paroles de Moshe, et une fois dans les paroles d'Yechezkel, c'est la notion suivante. Du moment où Dieu a forgé une alliance avec le peuple d'Israël, une alliance éternelle, il a lié sa réputation à la réputation du peuple. Et donc, le Ma'an Shemo, c'est quoi le nom de Dieu? Quand on dit qu'Abraham, il voyageait dans la terre et il était Koré Beshem Hashem. Il appelait au nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses prières d'Abraham n'étaient pas des prières privées. Ce n'était pas seulement pour ses besoins qu'il priait. Il annonçait, il y avait des rassemblements, il mentionnait le nom de Dieu. Oui, des discours, je sais que dans la République, avec le système de laïcité, il faut faire très très attention, mais en fin de compte, non, c'est l'inverse. L'idée, c'est justement de mentionner Dieu. Dans nos paroles, comme Yosef qui, devant Paro, dit « C'est pas moi qui est tellement calé qui arrive à interpréter les rêves. Non, 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 c'est Dieu qui me fait savoir ça. » Et de la même façon que Daniel le fera des siècles plus tard devant Nebuchadnezzar. Et donc, l'idée, c'est de proclamer le nom de Dieu juste pour qu'on en parle. Ça veut dire, on agrandit sa réputation. Gadlou la Shemiti, agrandissez Dieu. Comment est-ce qu'on peut agrandir Dieu? Dieu n'est pas, c'est pas une table qu'on peut faire agrandir ou rétrécir. Ce n'est pas des habits non plus qu'on peut étirer ou mettre à une trop haute température dans la machine à laver pour que ça rétrécisse. Ça veut dire quoi, agrandir Dieu? Ça veut dire agrandir sa réputation. On va annoncer partout. Je remercie Dieu pour ci et pour ça. Et donc, du moment où, dans l'histoire, la réputation de Dieu a été liée à la réputation du peuple juif, donc c'est le manchement. C'est pour le nom de Dieu qu'on dit... On ne mérite pas, mais on fait partie de ton plan divin. Le manchemo, Dieu envoie un délivreur. Et donc, on retrouve dans l'Amida un peu plus loin aussi, dans la question très, plutôt personnelle, de délivrance personnelle. Re'eva onyenu v'riva rivenu ugalenu me'era leman shemecha. Délivre-nous pour ton nom. Zochreinu lechaim, on ajoute pendant les 10 jours de repentance. Melech hafetz b'chaim v'kotveinu b'seva chaim leman'cha. Pour toi, quand nous on vit, c'est ta réputation qui gagne. Et donc peut-être qu'on retrouve ici une autre notion de prière. C'est de lier le personnel à l'infiniment grand. Je ne mérite pas, mais je veux faire partie de ce plan divin. Je veux faire partie de l'histoire. Je veux faire partie de ceux qui, à travers leur vie, sont Koré Beshem Hashem, Gadlou Lashemiti. On a grandi le nom de Dieu. Et donc, si je fais ça, c'est je lis mes besoins à Dieu. Et du coup, c'est une réflexion. C'est une réflexion un peu à la Rav Hirsch, comme on a mentionné avant. C'est-à-dire, quand je veux quelque chose, est-ce que c'est une demande égoïste? J'ai envie pour moi. En ce cas-là, si je ne mérite pas, pourquoi est-ce que je l'aurai? Mais si par contre, j'interprète mes besoins à travers ce que je peux faire pour le nom de Dieu, alors ça reçoit une autre dimension. Je me rappelle une fois, j'ai visité je suis arrivé dans une synagogue, et le rabbin qui était en train d'enseigner quelques jeunes, et voulait leur expliquer la prière. Il dit, voilà, tu veux un Game Boy, tu le veux, ou tu veux un PlayStation, eh bien, tu pries pour ça. Et peut-être que tu pries suffisamment, et Dieu s'arrangera, tes parents vont te le donner. Ou tu vas le gagner, ou je ne sais pas quoi. Moi, je crois que il faut aller un pas plus loin et dire, et si je veux avoir le PlayStation ou le Game Boy, c'est pourquoi? Pour que je joue? C'est une demande égoïste. En quoi ça sert que Dieu réalise ma prière? Si par contre je me dis, j'aimerais ça pour que je puisse aller visiter des enfants malades et leur permettre à l'hôpital d'avoir un peu de, je sais pas, un peu de divertissement. Oui? Ou je veux utiliser ma voiture, que je désire une belle voiture à un bon prix, pour que je puisse aider des gens, les emmener là où ils en ont besoin. Alors là, du coup, je me mets au service du nom de Dieu. C'est un modèle différent. C'est du coup prendre l'idée du lien qu'on veut cultiver, prendre l'idée de la bakasha et les combiner en soi. Rav Kook, il fait ça, j'aimerais bien finir avec des paroles de Rav Kook, il fait ça en analysant la Gemara qu'on a citée. Pour lui, la question de si les tfilotes ont été créés par les patriarches ou ont été instaurés après la destruction du temple n'est pas seulement une question historique, mais une question du contenu. Et dit voilà, dans la prière, dans l'Amida, hein, vous avez dit l'Amida, maintenant je reviens à l'Amida, dans l'Amida, si on analyse la partie centrale de l'Amida des jours de la semaine, où on trouve les bakashotes, où on demande, on prie pour certaines choses en particulier, on va voir qu'il y a deux groupes de 6 bénédictions. 6 bénédictions personnelles et 6 bénédictions nationales. Atachonen adam dat, donne-moi de la sagesse. Pardonne mes fautes. Oui. Ou rétablis et tsemach David, tatsmiach, le royaume de David. Vilirushaim ircha, berachamim tashuv, retourne ta présence divine vers Jérusalem. Et donc, dit Rav Kook, on a les deux. Qu'est-ce qui est plus important? Le côté personnel ou le côté national? Dit Rav Kook, Tfilot avot tiknum, les patriarches vivaient dans un temps où il n'y avait pas encore l'élément national. Il n'y avait que eux. Donc la prière, forcément, est une prière personnelle. Mes besoins. Ou peut-être, comme je l'ai interprété, mes besoins afin que je puisse proclamer le nom de Dieu. Les tmidim sont des offrandes au nom du peuple tout entier. Et donc, elle représente la prière nationale. Et pour Rav Kook, bien sûr, la solution de cette question-là, de cette tension entre l'élément national et l'élément personnel, c'est de voir les deux se combiner l'un dans l'autre. Les tfilotes sont en même temps les tfilotes des patriarches et en même temps les tfilotes les tmidim, c'est-à-dire que je prie pour le peuple tout entier, hein, le national. Je prie pour le peuple d'Israël et je vois mes besoins comme faisant partie des besoins de Klal Israël. Et donc je prie pour les deux en même temps. Je considère dans mes besoins personnels aussi l'aspect national. Qu'est-ce que je peux contribuer justement à l'ensemble du Klal Israël? Et comme j'ai dit, le Man Shemecha, à travers ça, qu'est-ce que je peux faire? J'ajoute, ça c'est pas dans Rav Kook, qu'est-ce que je peux faire à travers le Klal Israël pour proclamer le nom de Dieu? Voilà, ça c'était donc le propos. Une troisième façon de voir la prière, c'est pas exclusivement la prière personnelle, c'est peut-être même pas particulièrement la prière personnelle. En effet, la prière personnelle, elle a un aspect égoïste et un aspect philosophique qui n'est pas facile à justifier. Mais c'est peut-être pas uniquement une prière philosophique, développer le lien. Il y a, dans le développement de ce lien, il y a des actions. Il y a aussi la notion de se lier personnellement dans ses besoins et dans ses prières à d'autres gens et de se lier au nom de Dieu. Et j'ajouterai encore une petite halakha, c'est qu'il y a certaines prières où, exprès, quand on prie au pluriel. Par exemple, quand on fait Tfilat Aderech, la Tfilat Aderech est écrit au pluriel, dans la majorité des versions. Je voyage dans un train, oui, ou en avion, ou en voiture. Je voyage avec d'autres usagers de la route. Je prie en fait pour tout le monde, parce que peut-être moi-même seul je ne mérite pas. Mais ensemble, comme en me voyant faire partie de tout le monde, là, ça a une autre dimension. Et donc, on retrouve dans la halakha cette notion justement de chez Rav Kook, cette notion qu'on retrouve aussi chez Yecheskel, de lier l'individu à quelque chose de plus grand. Et c'est ça, quand on prie, on se lie à quelque chose de plus grand. Voilà, je crois. Bon, je crois qu'il est temps pour passer au prochain cours. Il va annoncer pour quelle heure? 11h15 ou 11h30? Je ne sais pas, 11h15. Alors, je vais vous libérer. Bon. Merci. Avec plaisir, mesdames et messieurs. Bonne étude, Kol Tov.